Seguir buscar el nuevo Sara, ¿cómo estáis? Vous voulez encore un petit biscuit? Mais qu'est-ce que c'est gentil de me rendre visite?
Et c'est vrai que c'est gentil de venir nous rendre visite.
Salut et bienvenue chez Roland.
Depuis les annonces que l'on connaît, Roland ne s'est pas laissé abattre. Elle a fait ce qu'on fait dans ces cas-là, lorsqu'un mariage est reporté, lorsqu'une silent party est finalement sonorisée, ou lorsqu'un saut en parachute se fait finalement dans le brouillard.
Elle a sorti son canapé, ses thés et ses biscuits et a exigé qu'on installe tout ça sur le plateau de la Grange de Dorigny.
Alors Roland n'est malheureusement pas ici avec nous, hein. Elle a eu un empêchement de dernière minute, Odile.
Oui, ouais, elle a dû aller à la déchetterie jeter son alu, parce qu'elle ne supporte pas l'accumulation d'alu chez elle. Donc elle, voilà, elle est à la déchetterie là, très rapidement avant que ça ferme.
Ok. Enfin, en tout cas, elle nous a dit « faites comme chez vous ». Et donc on vous transmet le message « faites comme chez vous ».
Chez Roland, maintenant, c'est aussi un peu chez nous.
Moi, c'est Adrien.
Moi, c'est Odile.
Et nous sommes les
Ouais,
on avait tout bien préparé et c'est là que ça se casse la gueule. Nous sommes les coprogrammatrices du Festival d'improvisation de la Grange de Dorigny. Cet après-midi, sur le canapé de Roland, on reçoit Yvan Richardet. Bonjour Yvan.
Mais bonjour Adrien.
Comment ça va ?
Super.
Alors, pendant la 9e édition du Festival d'impro de la Grange de Dorigny, tu devais nous présenter Familio Medi Bricosical Impro Rimé. Ouais, j'ai réussi jusqu'au bout.
Ouais, bien joué, bel effort.
Un spectacle jeune public de comédie musicale. Bah tant pis, j'ai envie de dire.
Tant pis, je suis même un petit peu un imposteur parce que je ne faisais pas partie du cast qui devait jouer, mais j'en étais le directeur artistique.
Pas mal, c'est classe. Alors, qui est Yvan Richardet ? Roland, avant de partir, nous a laissé quelques notes. Alors, si tu le permets, je vais te les lire. Improvisateur et comédien originaire de Pomy, pas loin d'Yverdon, a grandi les mains dans la terre et conduit des tracteurs dès l'âge de 7 ans. Plus tard, il a lu des bouquins au sujet de l'impro avant même d'en faire sérieusement. Il se renseigne avant d'agir. Autodidacte. Il écrit des chansons en remettant le folklore vaudois au goût du jour. Il est monté seul sur scène pour nous rendre attentifs et attentives au dérèglement climatique, pour lequel il se mobilise aux côtés d'Eléonore, sa fille. Il aime les Magic, les Vacherins au four et bien ranger des câbles électriques. Incroyable.
Mais c'est pas mal. C'est
ah oui,
pas mal.
Ça correspond pas.
Il n'y a pas encore tout mon pan religieux, mais on pourra peut-être l'aborder dans la suite.
Et à côté de toi, il y a Matteo Prandi. Matteo, ça va ?
Ça va bien, et toi ?
Oui, ça va très bien, merci. Alors toi, tu devais jouer dans le Lars von Trier, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Et puis tu devais aussi présenter Dystopie, un spectacle qui était une sortie de stage avec des jeunes improvisatrices.
C'est ça.
C'est ça. Roland nous a aussi laissé des notes à ton sujet.
Mais Dieu sait.
Oui, alors elle a écrit « Improvisateur et comédien originaire du Locle ». Il a déménagé à Lausanne à l'âge de 16 ans et vient de devenir plus lausannois que loclois si on compte les années.
À peu près ça, ouais.
À peu près ça. Il est le seul comédien roman au bénéfice d'un master en neurosciences. Alors là, je ne te cache pas qu'on a fait confiance à Roland sur ce point et qu'on n'a pas vérifié.
J'ai pas vérifié non plus, je ne sais pas.
D'accord, très bien. Il a commencé la scène par la flûte à bec, la vraie, pas ces flûtes à bec miniatures qu'on reçoit en 5e année primaire. Et c'est pour ça qu'il a une connaissance surprenante de la musique baroque, mais pas seulement. Il paraît qu'il apprécie aussi écrire de la musique électronique en secret. Il aime Key and Peele, Mario Kart alors qu'il n'a pas le jeu, et cuire des navets pendant des heures.
C'est des céleri raves, pas des navets, mais
des
c'est effectivement très important.
Ah oui, quelle est la différence entre les céleri raves et les navets ?
Je ne sais pas.
Mais pour toi ?
Pour moi, ouais. Le goût.
Le goût ?
Oui.
Ça a un goût radicalement différent ?
Radicalement différent. Je n'aime pas le navet et j'adore le céleri rave.
C'est vrai ?
Oui.
Ah, c'est dingue.
C'est marrant ça.
Toi, t'aimes bien les deux ou t'es aussi un des deux que tu
aimes ? Moi, je crois que j'aime tous les légumes.
Tous les légumes ? Même le fenouil.
J'aime le
Est-ce
fenouil.
Est-ce que le fenouil
Alors,
est un légume ?
Le fenouil est carrément
je crois,
un légume.
Oui.
Le top, c'est de le faire en carpaccio. Donc tu le fais vraiment à la mandoline, très très fin. Et du coup, vu que c'est un légume normalement un petit peu dur, ben, il devient mangeable si on veut. Et tu peux mettre vraiment après toutes des huiles un peu parfumées, des petits pignons, des petits croquants, des capres, des petits oignons en plus, pour le préparer comme si c'était vraiment une bonne viande. Et du coup, ça te fait un carpaccio où tu te dis chaud pour tout, en fait, c'est vegan.
Mais le carpaccio, c'est pas cuit, c'est cru.
C'est cru, c'est du bœuf normalement.
C'est ça. C'est
carpaccio,
cru,
mais... on pense au carpaccio de bœuf.
Oui,
je crois que carpaccio décrit. Mais toi, tu parles italien ?
Pas du tout.
Ok. Non, mais t'as des origines italiennes.
Mon père est italien. Ouais.
Parce que je crois que carpaccio, c'est le principe en fait de
Ah
de
d'accord, c'est le fait que ce soit découpé comme ça en fait. Mais toi, tu le cuis celui de fenouil ?
Non.
Ah non,
je crois
non plus,
que
d'accord.
Tu peux le blanchir, mais je crois, je l'ai eu fait vraiment cru. Moi, je suis assez cru. On pose souvent la question, mais en fait, toi, tu cuisines. Et en fait, je cuisine très peu. Dans le sens que je cuis très peu. J'aime bien les trucs très bruts comme ça, les bons produits bruts.
Ah ouais.
Wow. Vacherin au four.
Ouais.
Ah oui.
Quand même.
Mais donc, on avait oublié. Enfin, Roland a oublié. je me suis démasqué. A oublié la religion et. Les légumes, quand même, hein, apparemment.
Un peu, ouais. Non, je plaisantais un peu, mais ces temps, je me rends compte à quel point je suis protestant. J'ai eu une éducation très protestante de mes parents. Mon père était président du conseil de paroisse de Pomy pendant des années. Mon grand-père, avant lui. Et puis, du coup, on allait au culte, en tout cas, un dimanche sur deux. Sinon, tous les dimanches.
Ah ouais.
Je pense que c'est là que j'ai développé mon goût pour les deuxièmes voix, d'ailleurs. Mm-hmm. Parce qu'assez vite, je chantais les deuxièmes voix des cantiques. Et j'étais un peu fasciné par le décorum, l'orgue et tout. J'adorais vraiment la musique, le prêche un petit peu moins. Pendant longtemps, quand je venais à Lavely en tant qu'entraîneur d'impro, j'avais une espèce de légende ou d'aura. Les gens croyaient que j'étais maître de chorale, directeur de chant et très religieux. Les gens me disaient, mais toi, en fait, la religion et tout. Et en fait, pas du tout, parce que j'ai été agnostique assez vite, entre l'agnosticisme et l'athéisme, et puis maintenant un peu toujours. Mais par contre, je suis presque pratiquant, je suis non-croyant pratiquant. C'est-à-dire que je vais assez volontiers à des ventes de paroisse ou à des trucs comme ça en rapport.
C'est encore un peu ta communauté, c'est encore un peu des gens qui gravitent autour de toi.
Un peu. Et le quatuor bocal, la moitié des gars qui en font partie, c'est du coup un aumônier, enfin un ancien aumônier, un pasteur catholique et protestant justement. Et on faisait des camps, plutôt que de faire des camps de ski, on faisait des camps de ski où il y avait une heure quand même où on se posait des questions philosophiques, mais un peu religieuses en même temps. Après, c'était vraiment très très doux. C'était pas du tout prosélyte. Donc okay. C'était cool.
Toi, Mathéo, tu as dû aller à l'église aussi ?
Oui, j'ai fait ma première communion, catholique romain.
Ouais, c'est à quel âge ?
C'est à 10 ans.
Ah oui, c'est super jeune en fait.
Et ils ne m'ont pas rappelé pour la confirmation. Du coup, mon âme est damnée. Je ne sais pas. Je crois que Dieu a pigé que je ne croyais pas en lui.
Attends, mais on doit vraiment rappeler les gens ?
Non, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé.
Tu restes un peu dans le game.
J'ai oublié,
et puis
mes parents ont oublié. Enfin, j'ai jamais reçu de coup de fil, quoi que ce soit. Donc j'ai fait ma première communion. J'ai communié peut-être deux fois après dans ma vie. Mais non, plus du tout pratiquant par contre.
Ah oui, c'est ça, parce qu'après, quand il y a l'hostie à la fin, là, c'est que les gens qui ont communié qui sont censés aller la manger.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Ou qui veulent aller communier. Enfin,
qui souhaitent y aller, même si. Ah, ouais. Je me suis toujours demandé, parce que moi j'ai mangé une fois, puis après j'avais compris que j'avais fait faux, je crois. Bref, ça reste un truc qu'on a envie de manger quand même.
Ces vacances là, à Noël, pour la première fois de ma vie, je suis allé au culte de Noël. Enfin, sombre histoire de famille, etc. Mais
lâche comme ça, sombre histoire de famille. C'est quoi, on t'a obligé ?
Hein ?
On t'a obligé à y aller ?
Non, ma belle famille, entre guillemets, ils sont les deux pasteurs.
Ah d'accord.
Et il se trouve que la maman de ma copine. Mon amoureuse célébrait le culte de Noël, donc j'y suis allé quoi, mais avec plaisir.
Comme quand un pote veut jouer au théâtre, tu y vas quoi.
Quand j'ai quoi ?
Si un pote joue au théâtre, tu y vas.
Ça c'était une représentation.
Oui, en plus il y avait un conte, un moment de conte, donc c'était vraiment très théâtral. Mais bref, il y avait le temple des Diablerets, super pour ça. Je ne sais pas si les autres temples sont comme ça, mais en tout cas, l'orgue est devant. Enfin, il n'est pas derrière le temple. Donc, tu vois l'organiste, etc., qui au Diablerets est une organiste de, je sais pas, 80, 90 ans. Et là, bien sûr, on n'avait pas le droit de chanter. Mais elle chantait quand même, enfin elle jouait quand même tous les chants qui sont des chants religieux avec reprise pour que ce soit facile à reprendre tous ensemble. Et elle faisait quand même toutes les reprises. Donc ça durait des plombes. Et un peu comme ces histoires de deuxième voix qui m'ont fait penser à ça, elle était devant son orgue à jouer toutes ses reprises. Puis elle fredonnait les chants. Donc on avait vaguement une idée du chant au loin. Et je trouvais ça tellement théâtral,
ouais, vraiment.
Tellement bien.
C'est fou. Ouais, moi, j'étais un peu jalouse des gens qui faisaient le catéchisme quand j'étais enfant, parce que j'ai, bah, vu que mes parents sont plutôt anarchistes et communistes et compagnie, enfin, pas vraiment, voilà. Bien que l'anarchisme et le communisme, bon, bref.
Oui, mes parents aussi, et puis ils étaient catholiques, hein, donc voilà.
Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Non, alors, dans les deux familles, ça n'a jamais été un truc très central. Mais du coup, j'étais hyper jalouse, parce qu'il y avait des gens qui avaient le catéchisme après l'école, puis du coup, ils continuaient de se voir, puis ils allaient manger des biscuits dans un truc. Enfin, alors, je ne savais pas ce que c'était, mais à un moment donné, j'étais un peu jalouse, quoi. Et j'ai hésité à le faire, mais pas du tout pour une question de foi, donc ça... Ça compte pas.
Mais d'ailleurs, quand il y a une improvisation maintenant qui traite un peu de religion ou d'histoire biblique, t'es pas méga à l'aise ou je me trompe?
J'ai peur de faire faux. Ça augmente ma peur de faire faux. Ouais. Je me dis, je vais faire une maladresse, je vais dire un truc qu'il faut pas, ou bien les autres vont trop se comprendre sur un machin que moi j'ai pas. Donc ouais, c'est pas ma zone de confort. Ouais. J'ai pas envie de me moquer, quoi. Ça m'intéresse pas tellement. On avait une question pour vous deux. En cas de... Imaginons que vous êtes le protagoniste principal d'un film de zombies. Donc il y a vraiment plein de zombies autour de vous et tout ça. Quelle serait votre arme de prédilection pour combattre ces zombies, pour sortir, faire des courses, quoi? Donc il y en a plusieurs possibles. Hein. Vous pouvez réfléchir à toutes celles possibles. Ça serait laquelle?
J'ai envie de dire le Morgenstern. Mm-hmm. Comme hommage à Grégoire Brecht.
Tu peux te décrire le Morgenstern
ou Étoile du matin d'ailleurs. Sauf erreur, c'est la masse d'armes qu'on oui. voit. Enfin, la masse d'armes, on la confond avec la masse d'armes parce qu'une masse d'armes, c'est vraiment en acier.
Ah, en acier.
Et puis à la fin, il y a, c'est un peu l'arme de Sauron mm-hmm. dans le premier mm-hmm. de Jackson. Et puis le Morgenstern, bah, il y a une chaîne mm-hmm. au bout. Et la boule avec des piquants.
Donc et tu fais tournoyer un peu, puis voilà, tu défonces
c'est un peu, des... C'est un peu l'arme bling bling. Je suis ouais. sûr que c'est comme les jambes de bois de pirates. En fait, il n'y en avait pas du tout, ou il n'y en avait qu'une. Mais
ça a créé une légende.
Ça fait un peu rêver. Ça a okay. créé la légende. Je trouve que c'est une arme très théâtrale.
C'est vrai. Et toi, Mathéo, ce serait quoi?
Alors, ce ne sera sûrement pas un Morgenstern, parce que sinon, parce que je pense que c'est plus lourd que moi. Donc si j'essaie de oui. le faire tourner, c'est moi qui tourne. ça dépend
tu te
des zombies
prends
en fait.
Toi-même dans la face.
C'est ça, ouais. Dieu, ça s'enroule autour
ouais,
de mon cou.
Je vois trop. Horrible.
Non, je suis pas du tout assez doué pour ça. Ça dépend des zombies. Si c'est des zombies un peu lents qui oui. te poursuivent en tendant les bras, ben, je prends un vélo et je vais plus loin et plus vite. Si c'est des zombies qui sprintent, je pense que je saute par la fenêtre pour abréger mes souffrances. Je pense pas que je saurais me défendre en fait.
Pas de combat.
Non.
Tu renonces au combat dans les deux cas.
Bah après, si je suis sur place, qu'est-ce que j'en sais, mais là.
Ok.
Ouais.
Ah ouais, ouais. Sauter par la fenêtre carrément, quoi.
Nourriture facile, quoi, pour les zombies, ouais.
Ouais. Et le vélo, c'est vrai que ça peut être. C'est une bonne stratégie. J'avais jamais pensé à ça. Bon, ils ont des fois un peu des motos et tout, mais ça dure pas très longtemps parce qu'après l'essence s'épuise et tout.
Ouais.
Mais ouais,
et
le
puis,
vélo.
Faut faire gaffe parce que je sais pas si les zombies. Enfin, moi, je connais rien aux films de zombies. Hein. Moi, je. Mm. J'ouvre l'armoire à armes et puis il y a un gros point d'interrogation. Je n'ai aucune idée de
qu'est-ce qu'il peut,
qu'est-ce qu'il veut. Mais les zombies, si ça se trouve, ils peuvent se foutre dans le vélo, tu sais. D'un coup, tu es sur ton vélo, tu fuis. Et
tu
puis...
dis, attrape.
Non, mais je sais pas, les zombies, ils mordent pas des trucs, puis après, ils sortent de ces trucs. Non, il n'y a pas des histoires comme ça.
Tu confonds un peu avec les morts-vivants qui sortent ouais. un peu du cimetière, je pense.
Ouais. Ouais,
c'est ça.
Mais non, mais il y a un truc qu'il ne faut pas sortir quand il y a des zombies, parce qu'après, ils vont te mordre. Puis après, tu es tout normal, tu reviens vers les copains. Tu fais,
oui.
Et tout. Puis ouais. après, tes yeux deviennent rouges et puis tu... Non.
Complètement. Je me posais peut-être au surgissement que tu mentionnais.
Ah.
Là où je trouve le vélo, je pense, efficace, c'est que du coup, ben, c'est durable. Tu n'as pas besoin de mine ouais. ou de carburant. Et que du coup, tu vas pouvoir continuer à fuir.
C'est hyper malin.
La question étant, fuir où, Mathéo?
C'est une excellente question.
Jusqu'à une autre fenêtre de laquelle tu peux sauter.
Je sais, bah, où je peux. Mmh. Ouais, vers la mer. Mmh. De manière à ne pas me retrouver coincé sur une plage. Mais...
Ah ouais, c'est ça. Ouais. Fuir le truc enfermant, quoi. Parce que les deux, vous avez donc créé des spectacles, l'émeute. Non, pas l'émeute. Enfin, l'émeute, c'est le nom. Oui, c'est l'émeute, le nom du
c'est
spectacle.
L'émeute.
J'ai eu un doute sur le nom de la compagnie. C'est quoi déjà le nom de la compagnie ?
Calmez-vous.
Voilà. Je savais qu'il y avait un trick. J'adore. L'émeute, tu t'apprêtais à travailler autour des dystopies avec les juniors. Est-ce que dans vos visions dystopiques respectives, il y a des zombies ? Est-ce que les zombies seraient pour vous potentiellement une réalité un jour ?
Littéralement, non. Mm-hmm. Non. Mais métaphoriquement, est-ce qu'on est bien loin des zombies ? Si on les, enfin, je sais pas, il y a plusieurs définitions possibles, mais c'est un peu des corps humains qui fonctionnent automatiquement un peu. Mm. Et des fois, on est vraiment en mode automatique. Métro, boulot, dodo, puis à pas trop réfléchir, pas trop regarder par la fenêtre. Moi, je suis le premier à faire ça. Mais quelque chose.
Dans ce sens-là, quoi, une espèce de masse de corps qui se déplace sans penser. Ah ouais. Toi, il y a des zombies dans tes visions dystopiques, Yvan ?
Non, j'avais vraiment la même réponse que Mathéo. Moi, la vision, c'était mars 2020, où les gens se disent « Ah ouais, non, mais c'est vrai que... ce système thermo-industriel, ça ne peut plus continuer. Ces pandémies qui nous guettent. Non, faut changer. Du coup, tout le monde change de profil, de photo de profil Facebook avec. Non, on redémarre différemment. Le changement, c'est demain. Et puis en fait, après, moi, j'avais vu cette vidéo d'un restaurateur qui avait fait l'effort, quand il y a eu la réouverture, qui avait fait l'effort de faire à l'emporter en France et qui disait, ben voilà, j'ai vendu 4 repas et puis là, je vous montre, et il montrait avec sa caméra, je vous montre la queue devant le McDo. Voilà, les gens n'ont rien compris et tu voyais une file de 40 bagnoles comme ça en se disant, ben voilà, c'est peut-être ce genre de zombie en pilote automatique qu'on est.
J'ai fait ça hier.
Je suis allé au McDo.
Le petit aveu. Bon.
Non, pour la petite histoire, je suis en train de changer d'adresse mail, donc je mettais de l'ordre dans mes mails. Je suis retombé sur un mail qui était toujours sur les non lus depuis justement mars ou avril. C'était un copain qui avait envoyé à tout un groupe de destinataires un article et puis un interview sur France Inter d'un chercheur, je crois qu'il s'appelait Bruno Latour, c'est possible.
Ça me dit quelque chose. Ouais.
Ouais. Justement, qui développait toute une pensée de dire, OK, là, il y a tout qui est arrêté. Voilà, je crois qu'il propose un questionnaire pour savoir ce qu'on veut remettre en route, ce qu'on veut changer, etc., pour dire, on profite de ce moment d'arrêt pour savoir comment on redémarre. Et ce copain nous a envoyé ça pendant le premier confinement comme invitation à réfléchir. Et 6 mois, je sais pas, ça fait 6 mois. 6 mois plus tard, je l'ai lu pendant cette deuxième période qui est bien différente. Ouais. Tu te dis, ah merde, même moi je l'ai fait trop tard là, c'est fini, tant pis.
Ouais, mais moi il y a ce truc de me projeter dans le futur trop lointain, ou quoi, ou d'imaginer un peu les chemins possibles de l'humanité, tout ça. Ça me fige pas mal. Enfin, je préfère vraiment. Hein, je suis dans l'équipe de. On n'y pense pas, on est dans l'instant, mais quand même on fait un peu attention. Mais quand même, c'est dur. Et vous deux, j'ai l'impression que vous êtes aussi artistiquement inspirés par ça. Enfin, aussi si j'en crois le travail que tu voulais faire avec les jeunes et ton spectacle solo que j'ai vu. Vous, ces pensées-là, en fait, elles vous font bouger artistiquement, elles vous entraînent dans quelque chose. Plutôt, c'est plutôt un mouvement agréable, agréable. Non, c'est un gros mot, mais c'est un mouvement pour vous.
Ouais, c'est de la curiosité, mais ça va dans les deux sens. En ce moment, j'écoute un podcast sur les révolutions, et c'est un mouvement vers le passé. J'adore regarder l'actualité. Et puis j'aime bien aussi être curieux de ce qui va se passer dans le futur. Je crois que c'est pas que le futur qui m'inspire, mais c'est un peu une espèce d'analyse distante. Et du coup, je trouve ça passionnant et assez amusant. Dans le cas du futur, par exemple, le stage qui était pour les jeunes, c'était justement s'amuser à imaginer des futurs, mais sans chercher à les prédire ou à... Parce que ça, c'est rigoureusement impossible. Et même, enfin, tous ceux qui essayent, en général, il y a un ou deux génies qui ont réussi dans le passé. Mais... Mm-hmm.
Ouais, c'est ça. Imaginer, quoi. Ça te rend curieux et imaginatif.
Ouais.
Ouais. Ouais. C'est cool. Et toi, Yvan, comment artistiquement ça se passe, ce truc ?
Ouais, pour moi, c'est la mission de l'artiste, d'autant au XXIe siècle, donc d'imaginer des futurs possibles, de faire rêver, de créer de l'utopie. Ben là, en fait, ça sera complètement le thème de Mercury. Donc, je bosse sur la suite, enfin, le prochain spectacle de Calmez-vous, qui ne sera pas un solo, qui sera un quatuor, en lien avec Freddie Mercury, les dernières années, dès qu'il apprend en fait qu'il est malade, incurable. Et puis, nous, notre réaction aussi en tant qu'humanité, ben, peut-être aussi un petit peu apathique, où tu parlais de fixation, le fait d'être figé, complètement normal. Et moi, il y a des moments, ben là, je peux dire, ces trois derniers mois, je n'ai pas écrit d'articles de blog et tout, parce que je suis un peu tétanisé. C'est un peu la tétanie par analyse. Je suis aussi en train de me nourrir de nouveaux bouquins. Je suis en train d'ingérer des choses sur le rapport de la non-violence, quel type d'activisme il faut faire. Ce en quoi je continue à croire et qui est lié à notre métier d'artiste, c'est justement créer des utopies pour ouvrir en fait l'imagination, continuer à ouvrir le débat, surtout ne pas se laisser enfermer dans le « There is no alternative » de Margaret Thatcher, qui a quand même été scandé par Catherine Keller-Souter. Donc tout d'un coup, voilà, on croit qu'il n'y a qu'un système, ce qui est complètement faux.
Bah, c'est le nouveau catéchisme.
C'est la nouvelle religion ou les nouveaux zombies. Et
attends,
puis,
un point là-dessus, parce que je ne suis pas sûre que... Enfin, moi, pardon. Oui. Ouais. C'est quoi qu'est-ce qu'elle disait, Thatcher, encore ?
Alors, Thatcher, elle disait « There is no alternative to le système libéral ouais. capitaliste. Ouais. »
Ça serait drôle qu'elle l'ait dit comme ça. Oui. « There is no alternative to le système capitaliste. »
Complètement. Et hors contexte, d'ailleurs, tout le monde la cite mal. Hein, tu vois,
ok, mais, ouais. D'accord, elle disait qu'il n'y avait que cette route-là. Quoi.
En fait, c'était compréhensible. Les gars, enfin les femmes, mais enfin les dirigeants et dirigeantes dans les années 80-90, je pense, se sont dit en fait, la guerre froide est derrière nous, le mur est tombé, on est arrivé à la fin de l'histoire. Il y a d'ailleurs un bouquin que j'ai jamais lu, Fukushima, je crois, la fin de l'histoire. Non, Fukuyama, pardon, sur la fin de l'histoire. On croyait qu'on était arrivé au top du progrès. En fait, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est que justement, on a ce problème qui surgit et qui s'impose. Toi, tu disais dérèglement climatique. C'est assez drôle parce que pour moi, c'est déjà un euphémisme, ça, dérèglement. Moi, je suis pour dire le cancer climatique. Il faut qu'on parle de cancer climatique, de cancer croissanciste. C'est grave. Le problème, c'est que si on en parle comme ça trop souvent, on tétanise. Et donc, je parlais d'ouvrir les utopies, de justement dire à Thatcher et consorts, mais non, en fait, on a un système encore à inventer. On sait pas, le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi il peut ressembler. On n'a pas envie de parler de communisme parce qu'on sait ce que le communisme a pu de pire. Alors, heureusement, on sait aussi ce que le capitalisme peut de pire, parce qu'on le voit maintenant. Peut-être qu'il y a des choses à chercher du côté de l'anarchie. Moi, je m'intéresse beaucoup à Murray Bookchin, qui parle de mutualisme ou de municipalisme libertaire. Et puis, c'est l'idée de revenir à des petites structures, des petites villes où il y a des circuits courts. Donc, je pense que le métier d'artiste, c'est aussi un métier, et c'est ce qu'on fait en tant qu'improvisateur, improvisatrice, c'est de la subversion. On cherche aussi à faire de la politique subversive, c'est-à-dire pas forcément à scander des slogans, mais à réensemencer nos imaginaires avec des nouvelles idées, et puis la contestation, toujours.
C'est ça, ouais. Faire naître des idées dans la tête des gens en montrant des trucs sur scène, en abordant des choses sur scène.
Ouvrir les possibles.
Et au-delà de l'utopie, c'est aussi chercher, par l'imaginaire, de chercher à essayer de comprendre ce qui se passe maintenant, pourquoi on se sent comme ça dans notre situation. Si on est tétanisé, d'essayer de trouver pourquoi on est tétanisé aussi, et de comprendre que c'est parfaitement naturel.
Toi, tu as été tétanisé à un moment donné avec ces trucs-là ou tu as tout de suite eu cette curiosité ?
Je suis perclus d'angoisse en imaginant le futur qui nous attend. C'est terrible. Je ne sais pas si je vais avoir des enfants, par exemple.
Ouais, ouais.
Et, c'est, j'ai l'impression que... moi, c'est des enfants ou je sais pas, n'importe quoi. Tout le monde a une certaine forme d'angoisse qui parfois tétanise. Chez certains, ça provoque une espèce de réaction violente que j'envie parfois.
Ouais, ouais.
Mais de s'intéresser à ce qu'on imagine du futur et au passé, ça permet de se dire, OK, je me sens comme ça. OK, je comprends un peu mieux. J'y suis pour rien d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que je peux faire ?
Qu'est-ce que je peux faire ?
Moi, je suis vachement dans ces questions-là aussi. De... Enfin, par exemple, le fait de se demander si on veut avoir des enfants ou quoi par rapport à ce qui se passe actuellement. Toi, tu réponds comment, Yvan ? Vu que tu prends Eleonore en manif, si j'ai bien compris, ce que nous avait laissé comme mot Roland.
C'est ça, complètement, complètement. Il y avait une jolie photo qui avait fait la une du 24h.ch où on voyait ma fille en train de gueuler à côté d'un panneau contre l'UBS. en fait, l'enfant avec Joël, tout d'un coup, on s'est dit on est prêt, on en a envie, et puis c'est par amour. En fait, il y avait pas de calcul de se dire comment le monde sera dans 20 ans. Et puis après, je disais justement que même Pablo Servigne, il a aussi des gosses, qui, cofondateur de la collapsologie. Donc il y avait bien sûr qu'il y a une part de déni pour faire les trucs. Il faut quand même faire les trucs parce que si pour moi, il y a deux postures. Si on est complètement cohérent, aligné, du coup, on sort un peu du système, ou alors on va aux Mormons à Éclépan avec des banderoles. Mais je pense que tous les combats sont valables. La convergence des luttes, diversité des tactiques. Et une tactique, c'est faire de l'art engagé, réinventer les possibles et faire de l'art subversif. Et puis du coup, faire un enfant, il y avait vraiment... le faire par amour et puis de l'espoir. En fait, moi, je pense qu'à un degré, ça m'a donné envie de continuer à me battre parce que je me dis, là, en fait, je me bats aussi pour quelqu'un de très personnel, quoi. Je me bats pour qu'elle ait des conditions acceptables. Et en fait, quand vous expliquez le problème du cancer climatique ou de la crise à des gens de droite qui sont dans un autre paradigme de pensée, ils vous disent, mais... c'est pas grave, on s'adaptera. Du coup, il y aura moins de monde. Vous pouvez leur décrire le monde de 2060 et eux, ils voient aucun problème parce qu'ils voient une évolution naturelle. Mais l'évolution possible, c'est aussi des guerres sociales, des guerres climatiques, des problèmes de réfugiés et du coup, beaucoup de souffrance. Donc en fait, moi, je résume toujours en me disant je me bats pour qu'on puisse admirer la Joconde dans des conditions safe. Et c'est un raccourci pour dire, c'est de profiter du meilleur de l'humanité dans des conditions qui sont acceptables.
C'est beau. Oui, bien moi je suis pour que les gens cool continuent de faire des enfants aussi, parce que je me dis peut-être que après ça va donner quelqu'un qui va trouver des solutions. J'ai aussi envie que les gens sympas continuent de faire des enfants.
Il y a le film Idiocratie qui repose là-dessus.
Ouais, justement. Exactement, exactement. Et vous, enfin, en fait, ce qui nous fascinait aussi, c'est de se dire que vous apprenez beaucoup de choses tout seul. Enfin, justement, vous vous renseignez, vous lisez les deux. Enfin, vous avez ce profil aussi autodidacte pour pas mal de choses qui sont en dehors de votre champ professionnel, on va dire. Et on se demandait par rapport à... On voulait juste parler un peu de musique avec vous, de votre parcours un peu dans la musique et les trucs que vous créez, vous. Quand tu étais petit... ton ou ta, je ne sais pas, prof de flûte, à quoi elle ressemblait et comment il t'a enseigné la flûte ?
Alors, c'est Marie-Louise Thomen.
Ah !
Ouais, elle m'a enseigné la flûte.
On dirait que je la connais. Ah, bien sûr !
Mais oui, célébrissime flûtiste au Locle.
C'est vrai ?
Non, okay.
Les flûtistes au Locle voilà. Sont deux, donc ouais.
Oui, elle était en fait, j'ai commencé chez elle l'initiation musicale à 4 ans, j'ai commencé la flûte à 6 ans, puis j'avais pas envie de faire un autre instrument.
D'accord.
Et donc je suis resté chez elle et j'ai fait tout le conservatoire obligatoire, c'était jusqu'à obligatoire avec des guillemets, mais la fin du cycle, 13-14 ans, puis après j'ai continué encore avec elle pour un quatuor de musique de chambre.
Parce que d'habitude les gens font un peu de flûte et après ils bifurquent sur autre chose.
C'est la flûte, c'est comme le cannabis pour la drogue, quoi. Tu commences par ça et puis après début, tu fais des trucs sérieux.
Yes.
Mais tout le monde changeait d'instrument. Il n'y avait plus personne qui faisait de la flûte. Et du coup, j'ai continué la flûte.
Mais est-ce que tu as continué la flûte par loyauté ou par passion pour l'instrument ?
C'est une excellente question.
Comment cette femme était super.
Elle était super.
Elle était super.
J'ai eu un remplaçant pendant quelques mois, pendant 15 ans, j'ai eu qu'un seul remplaçant, j'ai détesté.
C'est super, ok, très bien. Très bien, super. Elle ressemblait à quoi? Elle était comment physiquement?
Elle est un peu plus petite que moi, ouais. Elle a des lunettes, elle ouais. est hyper énergique.
Ouais.
Elle a un fort accent, loclois, okay. le chaudefonnier. Toujours enthousiaste, toujours.
Okay. Tous les jours, pendant 15 ans, tout le temps.
Ah ben je dis pas qu'il y a pas des répétitions, j'ai pas bossé, puis du coup voilà, mais ouais. mais.
Méga elle, positive. Quoi.
Ouais, jamais engueulé, jamais. Ouais.
Trop bien.
Ouais. T'étais assidu comme élève. Enfin.
Non.
Ah non.
Non non. J'avais la chance de savoir jouer à vue assez facilement.
Jouer à vue.
C'est-à-dire de pouvoir lire la musique et la jouer tout de suite. Et du coup, je pouvais un peu m'en sortir comme ça. Je répétais un peu, mais je ne faisais pas une heure par jour, ou même pas cinq minutes par jour. C'était
très bien.
Très dilettante.
Et toi, Yvan, tu as commencé avec la fanfare, les cours de trompette, la fanfare?
Ben, en fait, j'ai commencé aussi à la flûte à bec.
Non.
Et moi, j'ai continué avec les drogues dures parce que j'ai vraiment fait deux ou trois ans de flûte. C'était vraiment cette idée que tu commences avec un instrument qui est plutôt facile pour avoir les bases de solfège. Donc, pour avoir un lien entre la théorie, les portées, les notes, les trucs mineurs, les bémols et les dièses. Et puis, un instrument qui est facile. Et puis après, tu commences la trompette et du coup, je pense que j'ai commencé vers 7-8 ans. La trompette, tu as déjà des notions de solfège, quoi, tu sais.
Tu as commencé avec qui?
Avec Serge Schleppi, je crois. J'étais en... Non, Brunner, voilà, je recherchais. Vu que tu as posé la question, je me disais Brunner. C'était un tromboniste de, je crois, Fribourg ou Neuchâtel, que j'ai revu une ou deux fois. Mais j'ai un peu... La flûte à bec, je savais que c'était une transition. Tu sais, tu dois faire ta pré-professionnelle avant de faire la pro, et puis, enfin, j'imagine. Et puis, du coup, ça te fait pas... Enfin, tu ronges ton frein, quoi.
Mais attends, mais Brunner, c'était le prof de flûte à bec?
De flûte à bec.
Puis après, tu changes.
Alors après, j'ai eu Schleppi.
Ah, d'accord. Ouais,
ouais, okay. Serge Schleppi, tromboniste aussi. Je suis tombé que sur des trombonistes. Et d'ailleurs... Une douleur, ça a été que... Parce que j'ai été un élève très crispé à la trompette jusqu'à mes 18-19 ans, je pense.
Ça veut dire quoi, très crispé à la trompette?
Crispé, comment est-ce ça veut que dire ça que j'avais une très mauvaise...
Posture.
Okay. Vraiment les épaules un peu fermées. Et chaque note était pour moi une préparation mentale, un problème. C'était un problème. Chaque note était un problème.
Ah, donc on n'est pas dans le truc à vue tranquille, quoi. On était bien crispé, bien accroché à la partition.
Y avait un côté complètement pas détendu. Et je pense que mon vrai prof de trompette, Eric Urfer, qui m'a énormément appris, mais surtout en marge de la trompette, lui, je pense qu'il n'a pas vu tout de suite qu'il fallait plutôt me faire un cours de karaté. Et c'est précisément dans un cours de karaté pendant un semestre universitaire à 19-20 ans où mon prof de karaté m'a dit, mais en fait, il faut détendre, être respiré. Et je pense que j'ai gagné deux niveaux en 10 minutes, parce qu'il m'a juste dit « expire quand tu donnes le coup ».
Et qu'est-ce qu'il a dit à Eric Urfer quand il t'a vu redébarquer après le cours de karaté?
Je ne faisais plus de cours. Eric Urfer m'a mené vraiment, je suis en train de montrer 3 mm, il m'a amené à ça de la réussite à l'examen de trompette militaire que j'ai brillamment échoué.
Oh non.
Bravo.
Et puis heureusement, parce que je serais probablement pas là si j'avais été pris dans la trompette militaire.
T'as candidaté pour, je sais pas, j'imagine au recrutement, tu peux candidater pour faire partie de la fanfare
c'est
militaire.
Ça, c'est
et,
ça.
Et donc t'as posé ta candidature pour ça.
Je savais depuis le début, je pense, depuis 16 ans, je voulais être trompette militaire. Le problème, c'est que j'ai eu un appareil dentaire, les bagues. et puis ça te fait reculer, ça te fait perdre 3 niveaux. Du coup, j'ai vraiment tout donné. Et je suis arrivé un peu à ça. À ma décharge, j'étais anticipé. Parce que je voulais faire mon école de recrue dans la foulée du gymnase. Mm-hmm. Donc à 19 ans, c'est ça, 19 ans.
Ouais, tu finis autour de 18.
Ouais, je l'ai fait en 2000. Et puis du coup, l'examen était un peu anticipé. J'avais une année de moins pour m'entraîner. Mais en fait, honnêtement, je sais très bien que j'avais pas le niveau. J'aurais pas eu le niveau. Et c'est pas grave. Je fais des trucs super. Non, je peux vous partager deux enseignements d'Eric Urfer.
Vas-y. Ouais.
Eric Urfer, il était trompettiste. Il a été formé en Suisse. Et après, il m'a dit, la chance en tant qu'artiste, c'est se barrer. il faut te barrer. Moi, je me suis cassé. J'ai été pendant 3 ou 4 ans dans la radio nationale de l'Équateur ou du Chili ou de Bolivie ou je ne sais pas quoi. On jouait à 3000 mètres d'altitude. Et puis ensuite, je suis revenu. J'avais tous mes potes qui étaient restés un peu au conservatoire dans le train-train, qui avaient encore tous leurs petits potes, leurs petits arrangements, puis qui avaient un petit peu stagné ou qui étaient sur des rails, mais à 30 à l'heure. Mmh. Et moi, quand je suis arrivé, j'avais ça sur mon CV. J'avais fait aussi des remplacements en Allemagne, en Italie. Et puis, j'ai écrit à toutes les églises. On y revient. Toutes les églises. J'avais monté,
en Suisse, donc.
J'avais monté une heure de concert avec un organiste. Et puis, on proposait... une heure de concert, le chapeau ou bien un cachet de 1000 balles. Et puis en fait, ça m'a complètement fait mon réseau décoller. Et puis après, il a pu rebondir comme ça avec un nouveau réseau. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, en tant qu'artiste, il faut se casser. Et il y a plusieurs manières de se casser. Soit tu te barres physiquement, tu vas faire un stage, tu vas faire l'IO à Chicago ou bien des autres choses ailleurs. Soit tu te casses avec des bouquins ou un autre angle de... angle artistique. Ça peut être aussi, tu fais du crochet à haut niveau. Après, tu reviens au théâtre avec ta science du crochet.
Ah, apporter des connaissances dans d'autres domaines, mais dans ta pratique d'artiste. Et parce que les deux, vous êtes quand même... Enfin, toi, tu composes un peu... c'était secret peut-être.
Dans ma chambre. Ouais, ouais.
Dans ta chambre, c'est ça. Mais personne ne t'a jamais appris à faire de la musique électronique.
Non.
T'as appris à faire de la flûte. Et puis un jour, tu t'es dit, tiens...
Ouais, c'était au lycée, parce que dans le canton de Châtel, on dit lycée, avec un pote... On faisait des trucs, quoi.
Ouais. Sur quoi?
Lui,
sur
il a continué la musique électronique.
Ah.
Ouais. Gaspard de la Montagne. C'est super, ce qu'il fait.
Ok.
Ouais.
Et un jour, t'as arrêté la flûte? T'en fais plus aujourd'hui? Ou quand même, t'en as une
ouais,
petite...
Ouais, ça s'est un peu décousu avec le temps. J'avais plus tellement le temps de faire des répétitions, des concerts à droite, à gauche. Enfin, c'était amateur, mais... Bon, je crois qu'avec les PFL, plus l'impro et le théâtre... j'arrivais pas à me déplacer le week-end pour faire des... Enfin, c'était trop chaud.
Ouais. Et comment... Enfin, ma question, c'est comment vous... C'est quoi votre processus d'autodidacte? C'est-à-dire que vous voyez un truc passer... Vous voyez quelqu'un faire quelque chose et vous vous dites « Ça, un jour, je vais pouvoir faire. » Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec la langue des signes. C'est vraiment depuis toute petite. J'ai vu des gens signer une fois et je me suis dit « Ça, un jour, je vais le maîtriser. » Et c'est pour ça que je l'ai appris, mais pas du tout en autodidacte. Vous avez quand même un peu ce truc d'apprendre des trucs tout seul. C'est quoi ça? Ça vient d'où?
Alors moi, je sais que ça me vient de la chance d'avoir été fils de paysan. Parce que mon père, du coup, faisait un peu tout. Il faisait des murs, il réparait des machines, il repeignait des trucs avec de la peinture en tirouille, il soude. Et du coup, je sais peindre avec de la peinture en tirouille. souder et faire des trucs. Donc, en fait, quand tu... Après, je me suis rendu compte que j'avais un rapport au monde très différent de d'autres personnes. Genre, cette table, si je veux, je peux la faire. c'est comme Loris qui nous tourne autour. Je sais qu'il a refait un van,
ouais.
Un bus, parce qu'il sait qu'il voit le truc. Tout d'un coup, il peut penser. Puis, il a la possibilité d'inventer son utopie et de se dire, je peux la réaliser. Mmh. Je sais faire, c'est pas très compliqué. Et je comprends complètement que des gens qui n'ont jamais bricolé se disent « Ah non, mais moi, je ne saurais pas par où commencer. » Donc, pour moi, c'est ça. En fait, c'est du coup, ouais, le truc me plaît parce que je pense qu'on est frères cachés. Je fais aussi un petit peu de musique électronique. De temps en temps, il y a un truc qui me passe. J'ouvre GarageBand, je pose 4 notes et puis j'y vais parce que je ne me pose pas la question de « Est-ce que j'ai le droit ou est-ce qu'il faut de l'académisme ?»
Ah, c'est ça. Il y a de l'audace et vouloir réaliser un peu un truc que tu as dans la tête.
Oui, et le dernier truc, c'était la comptabilité double. Il y a 3-4 ans, je me disais, j'ai jamais rien compris à la comptabilité double. Pour la comédie musicale improvisée, il faut vraiment que je m'y mette. Bon, mec, t'es capable de comprendre les règles de Magic. Magic, on peut aussi en parler. Pour moi, le meilleur jeu du monde, mais des règles très compliquées. Je me suis dit, tu comprends ces règles, tu vas quand même bien comprendre la comptabilité double. Donc, j'ai acheté un bouquin de comptabilité double. J'ai surfé sur des sites de comptabilité double qui sont mal faits. Les gens s'expriment très mal. Et puis, au bout d'un moment, en six heures, je savais faire des trucs. Puis après, tu te lances dans ta comptabilité, puis tu comprends que c'est dans deux comptes.
D'accord. Donc, une envie de comprendre, une envie de résoudre. Quoi.
Ouais, curiosité.
Tout seul.
Curiosité.
Et toi, Mathéo ?
Ouais, je crois que c'est un peu ça. Ouais.
Ah ouais.
Envie de comprendre. Hein.
Mais parce que, par exemple, là, tu t'es mis au piano récemment. Ouais. Enfin, récemment.
Ouais.
Oui, récemment. Tu vois un piano dans ton salon et du coup, tu te dis...
Oui, mais en fait, je crois que j'ai pas...
Par rapport à ce que tu disais, Odile, de ça, je veux le maîtriser, je crois que je n'ai pas cette pression-là. C'est-à-dire, c'est aussi un problème, hein, du coup, je commence des trucs que je finis jamais. Mais ça ne me pose pas de problème de commencer un truc parce que ça m'intéresse sur le moment et puis m'arrêter. Et puis après, ça me pose un problème des fois parce que je regrette d'avoir arrêté. Du coup, je reprends. Et puis, en fait, je n'ai pas d'impératif, c'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour prouver quoi que ce soit, c'est pas pour, enfin
c'est une zone de liberté absolue, c'est quoi, juste, c'est vraiment...
je dirais presque pour passer le temps en fait, de faire des trucs.
Moi, j'envie tellement ça, quoi. Je pense que moi j'ai en première deuxième primaire, je devais être un peu trop doué, les choses étaient trop faciles, et du coup je pense qu'il y a un endroit de moi qui s'est habitué à être très bon, puis du coup je supporte pas de commencer à zéro. Ah. Je voulais commencer la guitare. À 20 ans, j'ai demandé une guitare pour mon anniversaire. Cette guitare, je l'ai trimballée partout. Je suis allé une année au Népal, j'ai pris la guitare avec moi. Elle est encore actuellement dans mon salon, quoi, vraiment. Et ça fait 13 ans que je l'ai reçue. Je sais jouer un morceau.
Mais je suis un peu comme toi aussi, où je perds patience assez vite, des fois, quand ça ne marche pas. Par exemple, le piano, je me frustre très vite.
Ah ouais.
Ouais.
Ah, moi, je me frustre. Moi, j'ai pendant un Zoom Mario Kart, j'ai jeté une manette à travers le salon dans lequel j'étais. Ce qui a fait que les gens sur le Zoom, qui étaient dans d'autres appartements, ont été tellement mal à l'aise que quelqu'un a proposé de se déconnecter pour me laisser. Tu vois. Mais en fait, c'est pas grave. C'est juste genre, je vais balancer le truc et deux secondes après, c'est réglé. Ouais. Mais moi, alors, j'ai vraiment... Et c'est fou parce que je peux m'excuser, je peux faire un peu... Alors là, je suis désolée, là, j'ai merdé. Quand c'est plutôt vis-à-vis des autres, mais la compétition avec moi-même, mais je suis la pire. C'est vraiment... Ouais, je peux jeter des trucs, je peux te taper dans un ballon. Ah ouais, j'ai déjà eu des avertissements. Quand je jouais au volleyball, j'avais des avertissements de l'arbitre, parfois, qui disait au capitaine, vous dites à votre numéro 7 de se calmer. C'était moi, la numéro 7.
Oui, mais tu vois, ce truc de compétition avec soi-même, du coup...
Oui, alors moi du coup j'ai plutôt le truc de.
Oui. Le truc, ouais,
ah ouais, du coup j'ai le truc de. Ça va pas me résister, ça peut pas me résister trop longtemps, tu vois.
Vous ne me résisterez pas.
Et je suis du genre à aller sur tous les sites internet, à checker, voilà. Et vous-même vous enseignez, les deux vous enseignez l'improvisation à des amateurs, à des jeunes, à différents groupes. Est-ce que parfois. Tu veux poser la question, je crois que
c'est... Ouais, ça me. Mais en plus, je trouve. Moi, quand je donne des cours, j'ai l'impression d'être un peu Yvan qui joue de la trompette. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui tourne mal, c'est. Comment est-ce que je vais pouvoir faire ? Et j'ai l'image de vous qui êtes deux personnes super fluides. Donc, je me demandais un peu. Vous donnez énormément de cours. Le cours prend un autre cours que ce que vous aviez prévu. Parfois même, il peut se transformer en cours qui tourne mal. Je sais pas, il y a quelqu'un qui résiste ou quoi. Vous réagissez comment ?
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, au moment où il y a un truc qui bloque, quoi ?
Alors moi, j'ai trouvé plus fort que moi l'autre jour là. On fait de la médiation avec les arpenteurs à Puy. En gros, une matinée, on prend une demi-classe, parce qu'on est deux animateurs, animatrices, et puis on leur fait travailler on leur fait imaginer une nouvelle île que Ulysse aurait pu rencontrer dans son Odyssée. Puis du coup, on a un petit programme d'exercice d'impro, et au bout d'un moment, construction de la scénette. Et ils préparent la scénette, tout se passe bien, on fait un petit crash test d'abord en classe, puis après on va dans une espèce d'atrium, une aula de l'établissement. Et puis là, il y en a un qui me chie une pendule, vraiment, il se bloque, puis il me dit non, j'y vais pas. Et déjà, il était un petit peu, je le sentais un peu en résistant, j'ai dû le pousser un peu tout le matin, et puis à 11h20, il me dit non, j'y vais pas.
Quel âge ?
Il est en 10e, donc il a 13 ans, 13, 14 ans, je crois. Et du coup, pour répondre à la question, comment je fais ? Je sors, mais tout mon attirail. D'abord, je lui dis, je fais jouer un peu la... Je lui dis, je fais le bon papa. Allez, non, mec, ça s'est bien passé en haut. Je fais un peu le coach de baseball. Mec, ça s'est bien passé en haut. Tu l'as fait dans le crash test. C'était super. Les autres... Il résiste. Non, je ne peux pas. Ensuite, j'ai fait la pression sociale, le sociologue. Mec, ils sont tous là à t'attendre, enfin. C'est important. Tu fais partie d'une team. Le mec résiste. Au bout d'un moment, j'ai fait le tactile, même si je n'avais pas le droit de le toucher à cause du Covid, mais un peu le... OK, ça va passer en force. Donc, je l'embrasse, je fais mine de l'embrasser. Allez, viens, donc, tu peux le faire.
Tu mets la main dans le dos, c'est ça.
Genre vraiment le maître Yoda, bienveillant et tout. Et le mec me résiste. Je lui ai dit, il y a même mon co-animateur qui est venu, qui a essayé de faire un truc, mais donne-leur une minute, peut-être que l'autre groupe passe avant et tout. Le mec les a lâchés. Et vraiment, bien sûr qu'il y a une partie de moi qui a vécu ça comme une... Ah, comme un échec incroyable. Et puis une autre partie, je me dis, c'est pas grave, il a été plus fort que moi. En fait, c'est son ego qui a été plus fort que lui. C'est son combat. Tu sais quoi, en fait, mec, c'est son combat. Et c'est dommage, mais je vais pas le forcer parce qu'on n'est pas dans le traumatisme. On n'est pas dans l'abus. Mais du coup, pour répondre à la question, j'ai vraiment plein de stratégies. Et des fois, ça rate.
Mais t'as un peu une boîte à outils, quoi. Tu fais un peu genre... Alors, je prends ça d'abord.
Oui, et plusieurs personnalités à l'intérieur de Yvan. Vraiment, papa, coach, sociologue, maître Yoda.
Mais oui, Jean-Daniel Richardet. Enfin, après, t'as toutes tes personnes qui se composent. Quoi. Là aussi, il faut arrêter de croire qu'on est unique.
Hein. Ah oui, ça, non.
Surtout dans le théâtre. Donc, c'est top, je trouve, pour moi, d'essayer de temps en temps des stratégies. Quoi.
Donc, ouais, d'abord, plusieurs stratégies. Et si ça foire, paix avec toi-même, de en fait ça m'appartient pas, c'est son ego et tout ça.
Il peut être content que j'ai pas sorti mon lieutenant Dan. Le lieutenant Dan, il aurait fait. Tu sais quoi ? Ok, cool, tu te casses. Mec, tu te casses. Tu veux pas participer ? Tu te casses. Et le pire, c'est que ça aurait peut-être pu marcher.
Ou seul, tu le mets sur scène et tu t'adresses à lui, des trucs horribles.
C'est difficile. Whiplash.
Whiplash, ouais, exactement. Toi, Mathéo, comment tu gères quand ça va pas là où tu veux dans un cours ?
On peut diviser ces cas en deux catégories. Soit ça va pas dans la direction que je voulais, mais en fait c'est super.
Ouais, c'est ça.
Du coup, je prends ça, puis c'est super.
Ouais, c'est ça. C'est quoi ? C'est un peu des nouveaux exercices qui naissent de un nouvel axe.
Ils font ce qu'ils veulent, puis bon, on va les pousser là-dedans. Et des fois, ça veut pas, mais j'ai pas de stratégie. Je sais pas. En fait, je suis. C'est très rare que j'en arrive à être totalement démuni. Sans doute j'ai une boîte à outils, mais je la connais pas consciemment. Et dans ces cas-là, je le dis.
Ah, tu le nommes.
Ouais. Écoutez, là, je sais pas quoi faire.
J'attends. Oui, bah oui.
Ah ouais, non, mais en fait.
Bien sûr, l'aveu, bien sûr.
Dans mes cours, je leur dis que tout est ok, que vous avez le droit de pas être bon, de pas y arriver, de pas savoir. Du coup, je peux. Je suis obligé de me l'appliquer parfois moi-même, même si ça fait un peu mal. Ça ne réagit pas forcément dans la direction qu'il faudrait, parce que ça peut aussi jeter un grand blanc et puis va continuer ton cours après ça. Mais en fait, c'est comme ça, quoi.
Ouais, moi, je pense que ça peut aussi tuer cette image de prof ou d'intervenante qui connaît tout, qui sait tout, qui maîtrise tout.
Ben ouais.
Enfin, cet aveu-là fait aussi généralement, enfin moi je remarque parce que moi je le fais souvent, où je commence à débriefer une scène, puis au bout d'un moment je fais. Et franchement, pour le truc, là je sais pas quoi dire, que quelqu'un, puis des fois ça m'est arrivé de me retourner vers le groupe aussi ou quoi, et j'ai l'impression que ça rééquilibre quelque chose. Quoi.
Ouais.
Les participants tout à coup ont aussi ce truc de se dire ah ouais. En fait, il y a des failles là aussi. C'est
oui,
okay.
Oui, et puis des participantes qui te posent des questions. Moi, j'ai pas compris l'exercice. Puis dernièrement, enfin, j'en sais pas plus.
Ouais.
On essaye, on verra.
Ouais. Enfin,
toi, dis-moi ce que c'est que l'exercice. Puis, enfin, je le dis pas littéralement. C'est bien comme formule. Toi, dis-moi quel est l'exercice.
Oui, donc ça. Donc tu nommes et tu vas potentiellement même explorer avec LE la suite. Quoi.
Ouais. Il y a qu'une seule fois où j'ai démissionné, j'ai dit bon, qu'est-ce que vous voulez faire ?
Ah ouais.
Et puis ils ont proposé un truc.
Ah, parce que tellement ça se passait mal.
Ah ouais, horrible.
Qu'est-ce qui se passait quoi ?
Un groupe d'ados, je suis très mauvais avec les enfants et les ados. Et un groupe d'ados beaucoup trop excités, turbulents. Enfin, ce mercredi après-midi, ils étaient contents de se retrouver. Enfin, il y avait une espèce de guéguerre. Enfin, je sais pas, ils étaient trop nombreux, ça n'allait pas. Et à 20 minutes avant la fin du cours, donc au bout d'une heure, hein, à peine, j'en pouvais plus de gueuler, j'ai dit bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ils ont proposé un exercice, j'ai dit allez-y, puis ils l'ont fait pendant 20 minutes, et puis c'était catastrophique, et puis voilà.
Ça me rappelle une anecdote de quand j'étais à l'école, on avait une prof qui était en congé maladie pendant longtemps, et on avait eu un défilé de remplaçantes, et on avait détesté, pareil que toi, détesté les remplaçants, parce qu'elle, on l'adorait, et personne ne voulait nous dire ce qu'elle avait. Donc on était hyper inquiets, on était voilà. Donc ça a fait un truc de colère chez nous. Et une fois, ils nous ont envoyé un remplaçant. Et quand il est arrivé dans la classe, c'était déjà le troisième qui venait ou quoi. On avait rassemblé toutes les tables au milieu de la classe, entassées, et on était assis dessus. Donc il y avait une sorte de tas humain et mobilier au centre de la classe. Le gars est arrivé, nous a regardé, il a un peu posé son truc, il a dit bon, ouais, on m'avait averti, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? On veut rien faire, on fait la grève, ouais, on fait la grève, trop chiant. Et le gars nous a quand même dit bon, si vous remettez les chaises en place, on fait un Pictionary et je vous lâche plus tôt. Je crois que c'est la négociation la mieux menée qu'on ait eue. Bah, du coup, on a refoutu les tables en place, on a fait un Pictionary et on est parti 20 minutes plus tôt. Et le gars, il a juste fait. Vous savez quoi, aujourd'hui, je vais pas me battre. Et ça m'a inspiré un peu ce truc de ouais, quand tu dis un peu genre, bah, en fait, vous êtes plus nombreux, vous gagnez. Si vous décidez de me défoncer, vous allez gagner. Ou alors, je vais passer dans la colère, ça va être sale.
C'est beau comme, priorité, un peu, genre, de se dire bon, où est-ce que je mets la priorité ? Que la salle soit en ordre quand on passe.
Je pense d'ailleurs qu'il va y avoir de ça. Ouais.
Pour le reste.
Mais
tant
c'est
pis.
Vrai, quoi. Ouais, ces aveux et ces bah, qu'est-ce que vous voulez faire, vous ? Avec les ados, d'ailleurs, ça peut être aussi une piste de travail hyper intéressante. Bah, tu l'as mis au centre de ton stage qu'aurait dû se donner cette année. Quoi. C'est de quoi vous voulez parler, vous ? Souvent, on a tendance aussi à penser à la place des ados ou à la place des enfants, ce qui va leur plaire. Donc, remettre ça au centre. Bon, là, c'était quand même un peu un aveu d'échec pédagogique. Hein. Le Pictionary est parti plus tôt. On va pas se mentir, quoi. Il était payé, le mec, quand même.
Bon, Yvan, Mathéo, merci d'être venu chez Roland pour cet après-midi.
Tu voulais rajouter quelque chose, Yvan ?
Non, c'est court, c'est bien, c'est super. On revient la semaine prochaine, c'est ça ?
Oui. Bien sûr, quand vous voulez.
Ouais.
Merci en tout cas d'être venu et d'avoir partagé toutes ces histoires. J'étais heureuse d'entendre parler de la flûte à bec, vraiment ça m'a...
Ben, moi, ça m'a fait...
J'avais pas assez d'informations à ce sujet.
Ça m'a fait plaisir de partager ce moment très intime de ma vie que je n'ai jamais osé en parler depuis.
Mais juste pour qu'on soit d'accord, on parle pas d'une flûte à bec... Parce que c'est ça le truc... pardon, on avait dit qu'on arrêtait, mais...
c'est pas une petite...
C'est
ça
pas
que
la flûte à coulisses,
j'ai l'impression,
c'est pas la flûte à nez.
Parce que j'ai l'impression de t'avoir vu jouer une fois de la flûte à bec, mais peut-être que c'était dans un rêve,
non,
que je l'ai fantasmé, pour que c'était un basson, tu vois.
Mais, ah, non, mais... oui, parce qu'il y a plusieurs tailles de flûte à bec.
Oui,
comme il y a plusieurs tailles de violon ou de trompette, de saxophone, etc. Il y a soprano, alto, ténor, basse. Double contrebasse, double basse, je sais plus les deux dernières. Et ouais, j'avais amené une fois une double basse qui est plus grande que le joueur.
Et chez toi, t'avais la collection dans ton
non,
dans ton
double
armoire
basse,
à armes contre zombies.
Non, une double basse, c'est des milliers de francs, j'en ai pas. Mais j'ai une soprane et deux alti, ouais.
Ouais.
Waouh.
Wow. Au bout de 20 ans, t'apprends d'autres trucs, quoi.
Ouais. Toi, les trompettes. Non, mais récemment, on a fait un tournage avec Yvan. Tu nous as amené combien de trompettes ? 4 ? 5 ?
Alors, il y avait un petit cornet de poche, une trompette et un. Qu'est-ce que j'avais pris ?
Un gros machin, là.
J'avais pris un Kaiser, Kaiser Baritone.
Exactement,
Kaiser Baritone.
Ça fait plaisir d'entendre ce mot pour terminer ce podcast, non ?
Kaiser Baritone. J'aurais pu amener le sousaphone, qui est aussi un très joli mot, mais que je pouvais pas prendre. Mais ouais. Ouais. Moi, je cite encore du coup la super bédéiste québécoise qui s'appelle Zviane, qui a fait une BD qui s'appelle Ping Pong, qui parle justement des transferts que tu fais entre tes domaines d'expertise. Donc, tout d'un coup, tu as un domaine d'expertise, elle, c'est de la musique justement, le piano, et tout d'un coup, elle a commencé à s'intéresser aux arts visuels et elle s'est rendue compte qu'elle allait beaucoup plus vite qu'une autre débutante parce qu'elle pouvait transposer des choses. Donc, il y a un effet de curiosité, mais il y a aussi un cercle vertueux. Tu comprends plus vite la comptabilité double quand tu joues à Magic.
Oh, bam. Trop beau. Eh bien, Yvan et Mathéo, merci beaucoup d'être venus chez Roland.
Merci à vous.
Merci. Donc c'est l'heure de nous quitter et de rendre à Roland son salon qui ne devrait, enfin Roland ne devrait pas tarder à rentrer de son...
De la déchetterie.
De la déchetterie, oui, c'était ça.
On remercie tous celles sans qui tout cela n'aurait pas été possible, c'est-à-dire toute l'équipe de la Grange de Dorigny et en particulier Marika et Dominique qui nous font confiance depuis maintenant 9 ans.
On avait à la réalisation technique aujourd'hui Jonathan, Stéphanie et Sylvain. Vous êtes super. On remercie également Michael qui a participé à l'élaboration technique du podcast. Tout l'habillage sonore du podcast a été réalisé par le merveilleux Albert Chinet.
On a bien sûr une pensée pour les artistes programmés et annulés, mais qu'on se réjouit de revoir sur scène le plus rapidement possible.
On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment chez Roland. Et puis surtout, revenez quand vous voulez.
Vous faites attention sur la route en repartant, hein.